Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Dans les coteaux du Tarn, tout près de Lavaur, la présence du monastère de Nalanda et de l'Institut d'études et de méditation du bouddhisme tibétain Vajrayogini ont fait de ce petit coin de terre occitane un des hauts lieux en France du bouddhisme tibétain. La semaine dernière, au centre Vajrayogini, qui abrite des religieuses et des laïcs, des bénévoles et des salariés, nous découvrions les lieux, mais aussi ces hommes et ces femmes, des occidentaux, qui ont choisi la voie du bouddhisme. Nous découvrions également la vocation et la mission du centre, la transmission de l'enseignement du Bouddha, les retraites et ce quelque chose de beaucoup moins palpable, néanmoins très prégnant, l'esprit de ce qui se vit là. Je vous propose aujourd'hui, en compagnie de Jean-Yves Baralis, le directeur du centre, de Charles et de Michel, respectivement moine et monial, d'Adrien et de Michael, de poursuivre cette découverte, premier pas vers l'autre et la rencontre. Quelque part dans les dédales du centre, avec Jean-Yves Baralis.
Voilà. Donc là, c'est là où la majorité de nos chambres sont. Ça, c'est la chambre des lamas. Donc, on a des lamas qui viennent, qui dorment ici. Voilà. Il y a une énergie spéciale un peu dans cette chambre. Quand ils restent là, après qu'ils partent, on sent que... Wow. Là, on fait des offrandes d'eau tous les jours.
En signe de générosité, c'est bien ce que j'ai compris.
Ça, c'est pour travailler la générosité. Parce que le Bouddha, il n'a pas besoin d'eau. Hein. Mais nous, on a besoin d'offrir. Oui, eux, ils n'ont pas besoin de lumière ou à manger ou quoi que ce soit. Mais on a besoin d'apprendre à offrir. Mmh. Ouais. Après, c'est un peu plus facile d'offrir, de faire l'aumône dans la rue. Voilà. Ça ouvre notre cœur qui est un peu dur parfois, ça l'ouvre.
Et les voiles ?
Alors c'est des katas. Les katas, c'est des écharpes tibétaines. Alors ça, c'est typiquement culturel tibétain. Ça n'a rien à voir avec les enseignements bouddhistes, quoique. Mais au Tibet, quand ils se disent bonjour, ils s'offrent une écharpe blanche. Et en général, ils la rendent. Donc on offre une écharpe et hop, on fait une sorte d'échange, mais de la même écharpe. Quoi.
Ah oui,
donc, ou alors chacun rêve avec son écharpe. Quoi. Et donc traditionnellement, quand on a un lama tibétain, on lui offre une écharpe blanche. Et puis... Pareil, dans l'esprit de générosité, on imagine que c'est un bel habit de lumière. Après, on s'en sert pour envelopper tout un tas de choses précieuses, dont des textes, le dharma. Hein, parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est l'enseignement. C'est pas le Bouddha, c'est l'enseignement. L'enseignement du Bouddha. Ça va ensemble, mais et ça, c'est avec Kodijivara, c'est le Bouddha de la compassion. C'est là-dessus que vous avez médité ce matin, sur ce Bouddha-là. Donc il a 1000 bras et 11 têtes. Parce qu'en fait, il avait en histoire, c'est vraiment de la cosmologie, c'est vraiment de la légende. En fait, c'était Shenrezi, ou en tibétain c'était Shenrezi, avec Kotelijvara en sanskrit, ou le Bouddha de la compassion en français. Avait fait le vœu, à l'époque c'était pas un Bouddha, il avait fait le vœu de libérer tous les êtres et travailler pour que tous les êtres atteignent l'éveil. Puis il a travaillé pendant des années, et puis... sans réfléchir, et puis il a regardé en arrière, puis il a vu toute cette quantité de gens qui restaient à libérer. Il a eu un instant de découragement. Et là, il avait dit que mon corps éclate en 1000 morceaux si jamais j'ai un instant de découragement. Donc, il a éclaté en 1000 morceaux. Puis les dieux, ils étaient touchés par l'histoire, ils l'ont recollé. Alors chacun est venu avec une tête et machin. Ils ont tout collé ensemble, et puis ça a fait un Bouddha avec 1000 bras, avec des yeux dans chaque main. Pour que la sagesse soit, que la compassion soit avec la sagesse, et 11 têtes. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, c'est un des escaliers. Il y a deux escaliers comme ça. On passe devant le moulin de prière. Donc c'est un moulin qui tourne, qui envoie des prières. Et puis,
ce monument.
On appelle ça un stupa, en tibétain c'est un shorten. Et c'est la représentation de l'esprit du Bouddha. Les statues c'est le corps, les textes c'est la parole, et ça c'est l'esprit. Les trois portes du Bouddha. Donc il y a des reliques à l'intérieur de maîtres, il y a des écritures, des choses comme ça. Donc c'est un objet sacré pour nous. C'est pour ça qu'on tourne autour. Dans le sens des aiguilles d'une montre, parce qu'il reste à notre droite, donc c'est par signe de respect. Et donc c'est un des lieux où n'importe qui tourne, il accumule, il fait des bonnes actions. Même si c'est une mouche ou une vache, donc on peut amener les animaux, quelle que soit la motivation. C'est une des seules choses qu'on peut faire sans avoir une motivation particulière.
C'est l'Institut.
L'Institut Vajrayogini.
Ce nom, qu'est-ce qu'il veut dire ?
Alors, Vajrayogini, c'est une... Oula, ça va être compliqué. Yogini, c'est le féminin de yogi. Et Vajra, c'est de diamant, adamantine, on dit. Ou indestructible, c'est l'essence. C'est ce qu'on ne peut pas détruire. Et donc, Vajrayogini, c'est une déité du Tantra. Donc, c'est un aspect du Bouddha. Sur lequel des pratiquants avancés vont méditer et qui a un rôle un peu de protecteur aussi. Donc il y a le Bouddha a enseigné pendant 45 ans. Il a enseigné aux disciples selon leur niveau. Hein, donc il y a ce qu'on appelle le disciple du véhicule individuel, comment dire, le chemin du véhicule individuel, le chemin du grand véhicule et le chemin du véhicule des tantras. Des mantras. Donc ça correspond à différentes phases d'enseignement du Bouddha. Donc on retrouve dans la tradition tibétaine ces trois cycles. Le premier enseignement, c'est beaucoup basé sur l'éthique et la méditation. Hein, c'est les trois entraînements. Donc avec une éthique pure, on peut avoir une méditation pure et ensuite on peut développer la sagesse. Le grand véhicule, c'est on rajoute la dimension de la compassion, mais toujours sur une base du premier véhicule. Hein, il faut tout quand même l'éthique, et, sinon on n'arrive à rien. Et puis une fois qu'on a l'éthique, la grande compassion, on peut rentrer dans le véhicule du tantra, qui est... alors c'est un peu mystérieux pour les occidentaux. on utilise ce qu'on appelle les émotions, les énergies, et on les transforme. Par exemple, si vous étiez en colère, moi je donne cette analogie, je crois que c'est Thich Nhat Hanh aussi qui donne cette analogie. Quand vous étiez en colère, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez vous éloigner de l'objet de la colère, hein, et puis du coup, vous n'êtes plus en colère. Mmh. Ou alors, vous pouvez, en pratiquant l'éthique, dire ça ne sert à rien que je me mette en colère, ça va faire qu'aggraver les choses, donc je vais cultiver la patience et je vais attendre que ça se passe, tous les phénomènes sont impermanents, la personne qui est en colère, ce qui me rend en colère actuellement va s'arrêter, donc j'ai juste à être patient et à attendre. Et puis, le grand véhicule va faire une transformation de l'esprit en disant c'est une chance extraordinaire que quelque chose de difficile m'arrive. Ça veut dire que je purifie du mauvais karma. Donc ça, j'aurais plus à le porter. Ça me rapproche de la bodhéité. Donc je me réjouis. Voilà, c'est ce que fait sa sainteté quand il est toujours en train de rire tout le temps, malgré que les Chinois lui ont pris son pays, qu'il y a eu des milliers de massacres. En fait, son plus grand maître, ça a été Mao Tse-tung qui lui a appris la patience.
Pourquoi, comment des Occidentaux s'engagent-ils dans la voie du bouddhisme ? Au terme de quel cheminement, de quelle recherche ? Qui cherchent-ils et qui trouvent-ils ? Un chemin de vie, un refuge ?
Un coup, une amie m'a parlé du monastère de Nalanda, qui faisait des retraites, que ça pouvait me faire du bien.
Michael, jardinier du centre.
Et du coup, je me suis rendu à Nalanda. C'était en mai dernier. Et il ne faisait pas de retraite avant l'été prochain. Donc après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux bien faire ? Et puis j'aperçois un prospectus de bénévolat. Donc je leur ai proposé mon aide. Et du coup, j'ai pu participer aux enseignements et puis à toute la philosophie sur le fonctionnement de l'esprit et des petites perturbations qu'on peut avoir avec notre enfance, notre passé, des choses où on a un peu de mal à se débarrasser. Et ça m'a beaucoup aidé et du coup j'ai décidé de prendre refuge auprès de Geshe Jampel au monastère Nalanda. Donc comme j'étais débutant là-bas, ils font des basic programmes et master programmes qui sont un niveau quand même qui est assez difficile, niveau d'études qui est assez haut, et du coup je leur ai demandé s'il n'y avait pas quelque chose de plus abordable pour les débutants, et là j'ai entendu parler de l'Institut Vajrayogini. Et voilà, j'ai commencé une période de bénévolat ici, à suivre des enseignements qui étaient plus à ma portée.
Parce que prendre refuge, ça veut dire quoi ? C'est sur les enseignements ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Prendre refuge, c'est... alors, je suis débutant, je ne suis peut-être pas la meilleure personne, mais c'est vraiment s'engager dans la voie du bouddhisme et des enseignements, à respecter les êtres vivants, à comprendre l'esprit et le fonctionnement de l'esprit. Et voilà, ce serait un peu comparé... pourrait dire, peut-être les copains ne diraient pas la même chose, mais c'est peut-être un peu comparé au baptême un peu.
Mm-hmm. Moi, j'ai fait lycée hôtelier.
Adrien, cuisinier du centre.
J'ai travaillé à Souillac, lycée hôtelier, j'ai fait un cursus normal. Après j'ai travaillé à Paris, dans des restaurants gastronomiques, gastro et tout ça. Après j'ai pas mal fait la teuf, les teufs techno, les rails, les compagnies, j'avais mon propre camion, et voilà, je faisais partie des organisateurs. Et puis ça a dérivé dans la toxicomanie et l'alcoolisme. Et donc ma mère côtoyait déjà le centre en fait depuis, suivait des enseignements depuis longtemps. Dans mes périodes, on va dire, un peu difficiles, voulait me présenter un moine qui s'appelle Charles, que vous avez dû rencontrer ce matin. Voilà. Donc c'était une de mes premières rencontres ici, avec le Dalai Lama et une nonne, une enseignante australienne qui s'appelle Vénérable Robina, qui donnait un enseignement d'une semaine, où pendant cet enseignement, il y a eu une prise de refuge avec Geshe Tengger, en fait, qui est un Geshe qui est à la retraite. Qui n'est pas en retraite, qui est à la retraite, qui habite en bas. Et donc il y a une prise de refuge avec lui. Donc voilà, j'ai pris refuge spontanément. Et après j'ai fait ma dernière cure de désintox, qui était surtout pour l'alcool. C'était surtout pour l'alcool en fait. Le reste étant réglé. La consommation de produits, pour que ça soit clair pour les auditeurs, la consommation des autres produits, héroïne et compagnie, étant réglée. Voilà, y avait plus que l'alcool à régler, donc j'ai fait une troisième cure. Et après la troisième cure, on nous conseille de faire une post-cure. En fait, j'ai trouvé le bon endroit. En même temps, j'ai commencé bénévole en cuisine et c'était mon domaine. Ouais. Je voulais retravailler, donc ils m'ont donné ma chance, j'ai pu retravailler. En même temps, il y a des enseignements sur la philosophie bouddhiste. Parce que moi, quand je suis arrivé là, c'était plutôt ni Dieu ni maître, quoi. Le bouddhisme, c'est ce qui me paraissait, c'est ce qui m'a le plus parlé en fait. Enfin, c'est ce qui m'a correspondu au moment en fait.
Une bouée pour vous, un point d'ancrage.
On dit prendre refuge dans le bouddhisme. C'est vraiment on peut pas faire mieux comme définition quoi. J'avais besoin d'un refuge.
Centre d'études et de méditation du bouddhisme tibétain, tout nous le dit dès l'arrivée au château. Drapeaux de prière tendus entre les branches des arbres, statues du Bouddha éparpillées dans le parc, immenses stupas et moulins de prière. Le centre Vajrayogini s'élève néanmoins dans le respect et l'esprit des lieux. Restauration des bâtiments, conservation de la chapelle avec son autel et ses nombreuses statues chrétiennes. Et c'est là, dans cette chapelle justement, que je vous propose de retrouver Jean-Yves Baralis. Le lieu est propice pour évoquer des notions qui, dans le bouddhisme et le christianisme, prennent souvent des sens très différents.
Le concept de culpabilité n'existe pas chez les bouddhistes asiatiques. Ils ont des regrets, ils ont fait des choses mal, ils ont des regrets, mais ils ne vont pas se culpabiliser de quelque chose qu'ils ont déjà fait. Quand on fait des pratiques de purification, il faut regretter les actions négatives qu'on a faites, les actions négatives, c'est-à-dire qui ont fait du mal à nous-mêmes ou aux autres. Et donc, il faut regretter, mais s'il n'y a pas une once de culpabilité, il n'y a pas à dire « Oh, je suis mauvais, j'ai fait ça, tout ça », il n'y a pas du tout. Oui, l'idée, c'est de dire « Oh, j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune, j'ai fait des trucs, ok, maintenant j'ai bien compris, je ne le referai plus, et d'ailleurs, pour ne plus le refaire, je vais... » faire cette méditation qui va me permettre de changer ma manière de penser et ne plus la refaire dans le futur. C'est plutôt comme ça. Alors, à chaque fois, c'est pour ça, il précise bien, par exemple, le mot aimer, c'est à plein de connotations. Les Grecs avaient une vingtaine de mots pour utiliser le mot aimer, les Romains n'en avaient qu'un. Un ou deux, je crois, adorer et aimer. Chez les bouddhistes, c'est très précis. Aimer quelqu'un, c'est vouloir que cette personne soit heureuse. Voilà, qu'elle soit heureuse. Et la compassion, c'est prendre la responsabilité de rendre cette personne heureuse, de vouloir cette personne heureuse. Bonjour. Un visiteur. Voilà, donc c'est toujours, on réfère toujours à des définitions, à des mots très précis. Mm-hmm. Parce qu'il y a cette interculturalité qui peut poser obstacle à ce qu'on dit.
La culpabilité, une notion reprise par Michel, moniale bouddhiste au centre Vajrayogini.
C'est à nous d'être doux avec soi-même, parce qu'en premier, on a tendance à être trop dur, parce qu'on est, surtout même en génération, j'ai 60 ans, on est un peu des stéréotypes, on faisait de la pression, on se mettait, il y avait le devoir, il fallait faire ceci, il fallait être à la hauteur de... Et donc tout notre travail sur notre esprit consiste à se justement lâcher ce genre de manière de... cette, pas adhérer à cette manière de fonctionner. Donc effectivement de lâcher prise et puis aussi comment dire, de se libérer de tout ce qui est cette fameuse culpabilité, de façon à ce que se permettre soi-même faire des erreurs. Et on a aussi la confession, et en même temps cette confession s'adresse à tous les Bouddhas. La confession, c'est reconnaître qu'effectivement on a fait l'erreur, s'en apercevoir, reconnaître qu'on a fait l'erreur, comprendre comme quoi c'est effectivement une erreur, la purifier par la prière, etc. Et surtout, la quatrième force, c'est s'engager dans la mesure du possible à ne pas la recommencer. Ça veut dire toujours pareil, on est acteur, on ne subit pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendez compte que effectivement, votre action n'est pas juste et vous pouvez la modifier. Vous pouvez modifier votre esprit pour ne plus la recommencer ou... peut-être, à la place de la faire 10 fois, ben, la faire que 9 fois, et ainsi de suite. Mm-hmm. De progresser petit à petit jusqu'à changer notre esprit et plus avoir ce mauvais comportement. Mm-hmm. Voilà, c'est ça l'important. Et la culpabilité, c'est un poison aussi, c'est comme notre trop grande exigence. Donc, se dire aussi qu'on n'est pas encore un Bouddha, s'accepter tel qu'on est, faire tout ce travail d'acceptation et de connaissance de soi-même, pour s'apprécier, savoir ce que l'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire, et de voir que on progresse et que petit à petit les choses changent. J'ai pris l'ordination.
Michel.
J'ai pris l'ordination devant un maître qualifié. Donc il y a plusieurs niveaux d'ordination. Il y a le niveau débutant. Après, il y a le niveau novice, et puis après, il y a le niveau plus élevé, où on est pleinement ordonné. Voilà. Donc, il y a 3 niveaux, et dans ces 3 niveaux, il y a des nombres de vœux différents que l'on doit respecter.
Vous êtes ici au centre d'études Vajrayogini. Quel est votre rôle et votre fonction ici?
Alors, mon rôle, c'est principalement l'accueil, et la fonction, c'est donc... d'accueillir, et puis aussi éventuellement quand il y a besoin de parler avec les gens, si je peux les aider de quelque manière que ce soit.
Vous avez une fonction d'écoute?
Oui, c'est ça. Mmh. Et je suis aussi aumônière bouddhiste à Purpan et à Longkhompol. Donc mon but, c'est justement d'aider ceux qui ont besoin, qui pensent avoir besoin de mes services. Et donc, voilà, donc, s'ils ont besoin, je suis disponible, j'y vais. Mais je ne fais pas de prosélytisme, c'est-à-dire que je ne visite pas les chambres, je ne rentre pas, j'attends qu'il y ait la demande. La personne demande.
Je crois que c'est pour toutes les aumôniers.
Exactement. Mais je tiens à préciser aussi, que ça me paraît important, que si jamais il y a quelqu'un qui a besoin, il sache qu'il faut qu'il fasse sa demande. Et on est appelé aussi des fois parce que des gens sont un peu, par exemple à l'aumônerie, sont un peu, le catholicisme ne leur correspond plus trop, ils sont en recherche. Ils ont besoin de quelqu'un neutre, qui leur semble plus neutre pour discuter et pour avancer.
Et pour être accompagné souvent, de la vie vers la mort.
L'aumônerie n'est pas forcément que l'accompagnement vers la mort. Mais ça arrive, bien sûr. Et donc, l'avantage qu'il y a dans le bouddhisme, c'est qu'on parle facilement de la mort. On en connaît bien les tenants et les aboutissants, donc on peut la transmettre. Et ça rassure beaucoup les gens de savoir comment ça va se passer, etc. Et ça les apaise, puisqu'ils ne sont plus dans l'inconnu. Et donc, et on leur donne des outils, donc des manières de faire.
Vous pouvez nous expliquer, vous donner des outils? Vous dites que vous connaissez les tenants, les aboutissants.
Ben en fait, c'est un peu pareil que pour d'autres traditions. Donc nous, on croit que dans notre esprit, il y a une partie qui s'appelle le continuum mental et qui va de vie en vie. Et donc nous pensons qu'après la mort, donc ce continuum mental s'en va du corps. Le corps devient une dépouille corporelle, mais n'est plus habité par ce continuum mental, qui s'en va dans un état qu'on appelle le bardo, un état intermédiaire. Et donc, dans cet état intermédiaire, il va rester 49 jours pour après aller dans une autre renaissance. Voilà. Prendre renaissance. Alors, cette renaissance, elle peut être humaine, elle peut être en tant qu'animal, ou être des enfers, ou Dieu, ou demi-dieu, ou être humain.
C'est Jean-Yves qui me disait que vous animez ou vous êtes responsable, je ne sais pas, des ateliers de tsatsa.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est, les ateliers de tsatsa?
Tsatsa, ce sont des représentations de Bouddha que l'on fait parce que nous croyons donc que pour la transformation de notre esprit, nous pouvons invoquer différentes qualités qui sont manifestées à travers certains Bouddhas ou Bodhisattvas. Et donc, il y a le Bouddha de la compassion, et donc le fait de réciter son mantra, le fait de visualiser, de penser à lui, purifie notre esprit. Et donc, c'est sur ce principe-là, donc c'est des statuettes qui reprend en fonction de l'iconographie du bouddhisme tibétain, les représentations de Bouddha. Et nous, quand on les peint, on essaie d'être dans la concentration, dans la paix intérieure, pour juste être là, à peindre ici, maintenant, et faire que ça, que peindre, ne pas avoir de pensée trop discursive, ou de pas penser à demain, ou de pas penser au passé, et donc d'être le plus concentré,
l'instant présent.
Et comme on sait qu'on peint ce Bouddha, on essaie de faire quelque chose de joli, et il imprègne petit à petit, au fur et à mesure où il y a les couleurs qui viennent, ça imprègne aussi notre esprit. Et puis on fait des offrandes de couleurs, de notre attention, de choisir des couleurs qui vont bien ensemble, soient harmonieux. Mais c'est notre harmonie à nous. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aujourd'hui peindre une salsa, ça peut être avec des couleurs très vives, et X mois après, on va peut-être avoir envie de faire des couleurs pastel. Et ça, c'est pas grave, c'est juste, ça représente l'état d'esprit dans lequel on est jour ou pas.
Centre d'études et de méditation, le centre Vajrayogini accueille toute l'année de nombreux étudiants. Pour Charles, moine qui accompagnait ce jour-là la retraite Nyungnes, un chemin très long et fait de patience.
Il faut bien comprendre d'où l'on vient et ce qu'est notre réalité ordinaire. Donc c'est un chemin qui est très long, qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'humilité. Autant de qualités que je n'ai pas, mais il ne faut pas se décourager. Donc, ce qui est intéressant dans la pratique, je ne dirais pas tant que je suis un enseignant, je dirais plutôt que j'essaie de pratiquer avec les personnes qui viennent faire des retraites. Et ensemble, donc, on essaye de mettre un chemin de vie qui nous amène à une autre expérience de nous-mêmes. Pas le petit moi égoïste qui a peur toujours de perdre quelque chose, mais on essaie de cultiver en nous donc cette force de, je dirais, d'altruisme, d'ouverture du cœur. On essaie de pratiquer pour le bien des êtres, parce qu'on est dans cette il y a deux traditions dans le bouddhisme, deux grandes traditions, donc ce qu'on appelle le Hinayana et le Mahayana. Yana, c'est le chemin et ou véhicule. Et Ina, c'est petit, Maha, c'est grand. Maha, c'est ce qui considère la réalité de tous les êtres sensibles. Et ce que l'on expérimente, ce que l'on souhaite le plus, c'est-à-dire le bonheur, la paix, tous les êtres sensibles le souhaitent. Et ce que l'on ne souhaite jamais, la souffrance, aucun être ne le souhaite. Donc on essaie vraiment d'être dans cette, à la fois dans cette compréhension, mais aussi, c'est là la différence peut-être avec l'enseignement pur qui nous donne, qui est la base de toute manière de toutes les pratiques.
Il faut avoir la connaissance.
Oui, voilà, exactement. La connaissance, c'est la cartographie du chemin. Et le chemin, c'est la pratique qui est censée nous amener à l'expérience. Et c'est seulement l'expérience d'un nouvel être en nous, ou on pourrait dire le retour à notre être véritable. On n'a pas quelque, il n'y a pas quelque chose qui n'était pas là et que l'on doit créer. C'est quelque chose qui a toujours été là, mais qu'on l'a toujours oublié. Parce que, essentiellement, on est totalement aspiré dans ce monde éphémère des plaisirs. Et donc c'est là où on revient à la base de, quand on parle de renoncement, c'est-à-dire prendre un peu de distance avec notre attirance. Vous savez, l'exemple qu'on donne, c'est les papillons de nuit. Il y a une bougie, une flamme, et ils vont droit dessus. Ils pensent trouver le bonheur. Et la seule chose qu'ils trouvent, c'est la mort et la souffrance.
La semaine prochaine, nous poursuivrons notre découverte du bouddhisme tibétain en Midi-Pyrénées. Je vous amènerai cette fois au monastère de Nalanda, où vivent et étudient une vingtaine de moines.